Il est 19h, vous êtes les bienvenus sur Europe 1.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. La principale suspecte du meurtre de la jeune Lola est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. L'affaire particulièrement sordide devient politique. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Cette Algérienne de 24 ans devait en effet quitter le territoire français, on vous expliquera ça. Nous reviendrons aussi sur la passe d'armes à l'Assemblée et la grosse colère d'Éric Dupond-Moretti sur la récupération de cette affaire. Nous serons également à Foucreuil, près de Béthune, où les parents de la fillette se sont réfugiés après le drame.
L'OQTF aurait-elle dû être exécutée plus tôt? Que dit cette épouvantable affaire de notre société? Nous en parlons après le journal avec Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police et François-Noël Buffet, président Les Républicains de la commission des lois du Sénat. Il est notamment rapporteur de la mission Services de l'État et Immigration. Et puis après 19h45, la grève aujourd'hui, elle a été peu suivie dans les transports. Le retour à la normale est attendu dès demain selon la SNCF. Fabien Dumas de Sudrail sera avec nous. D'ailleurs Hélène, les chiffres du ministère de l'Intérieur nous parviennent à l'instant. Il y avait 107 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui.
Voilà, on fera le bilan de cette journée de grève et de manifestation pour le pouvoir d'achat. On parlera aussi du coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe. Autant se faire vacciner contre le Covid par la même occasion.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Alors une journée calme avant l'arrivée d'averses orageuses sur la façade atlantique demain soir. Ce sera un mercredi chaud dans le sud-ouest et doux ailleurs. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène. Une émotion nationale, générale, 4 jours après le meurtre de Lola, 12 ans.
Oui, aujourd'hui, les parents de la fillette ont été reçus par Emmanuel Macron qui leur a présenté ses condoléances et leur a fait part de son soutien. Hier, la famille, extrêmement éprouvée, avait trouvé refuge dans le Pas-de-Calais, à Foucreuil, Lionel Gougelot. Il recherchait un peu de calme dans l'épreuve qu'il traverse.
Oui, effectivement, Johan et Delphine sont hébergés ici par la grand-mère paternelle qui habite une petite maison en retrait de la rue principale de cette commune de 1700 habitants. À l'abri d'Ergar, ils traversent cette épreuve avec courage et dignité, me disait cet après-midi Gérard Rogier, le maire du village. Il a longuement rencontré le couple hier soir, des parents dévastés, vous l'imaginez bien, par la barbarie dont a été victime leur enfant et surtout plongés dans un abîme d'incompréhension sur les raisons de ce meurtre.
Quelle raison de faire un massacre tel qu'on peut connaître maintenant sans avoir des détails, ce qu'on entend de plus en plus? Non, ils ne comprennent pas. Mais ils sont très courageux. Je ne pensais pas les trouver à ce stade de comportement. Pour l'instant, ceux qui souhaitent le plus, c'est récupérer leur fille. Pour le reste, ils suivent de l'enquête. Je ne peux pas dire que ça ne les préoccupe pas, mais le principal, c'est de récupérer leur fille.
Des parents qui assurent au maire du village qu'ils n'ont jamais eu d'altercation ou de différend avec cette dabia, comme celle-ci a pu l'affirmer dans une première déposition. Johan et Delphine n'aspirent plus maintenant qu'à une chose, pouvoir ramener ici le corps de leur petite Lola. Des parents qui envisagent de revenir s'installer définitivement dans leur région d'origine et que nous accompagnerons par solidarité, assure le maire de Foucreuil.
Lionel Gougelot, près de Béthune, à Foucreuil, où la famille a donc l'intention de s'installer. Un hommage à Lola est prévu dans la commune vendredi en fin de journée.
Et l'enquête continue. La suspecte est désormais incarcérée à la prison de Fresnes.
Oui, où elle est d'ailleurs placée à l'isolement. Cette Algérienne de 24 ans, mise en examen pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie, n'avait pas de titre de séjour. Elle était sous le coup de ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire. David Montagnier, cette jeune fille, elle était arrivée en France en 2016.
Oui, tout à fait. Et donc, de façon tout à fait légale, elle est arrivée avec le statut d'étudiante étrangère et la meurtrière présumée s'inscrit dans une formation CAP de restauration qu'elle obtient. Mais selon nos informations, les services de l'État vont perdre progressivement sa trace pendant plusieurs années. Et puis, le 21 août dernier, alors qu'elle se présente à l'aéroport d'Orly, la suspecte cherche à rejoindre la zone des vols internationaux pour rejoindre une amie à l'étranger. Mais elle n'a pas de billet d'avion ni de papier d'identité valide. Elle est donc en situation irrégulière, d'autant que son titre de séjour a expiré en 2019. Elle est interpellée par la police. Les services du ministère de l'Intérieur décident de l'expulser le jour même en lui notifiant une OQTF, une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. C'est le délai légal qui lui est laissé. Mais comme elle n'a aucun antécédent judiciaire, elle n'est pas placée dans un centre de rétention administrative. Dabia Bey aurait donc dû rejoindre l'Algérie avant le 21 septembre dernier, de façon spontanée, comme la loi le prévoit, ce qu'elle n'a pas fait.
David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Merci David. Et très vite, cette sordide affaire a fait l'objet de récupération politique.
Elle était d'ailleurs au cœur des questions au gouvernement à l'Assemblée. Tout à l'heure, la droite et le Rassemblement national demandent des comptes au gouvernement, Alexandre Chauveau.
Oui, parce que ce drame illustre, selon eux, les défaillances de la politique migratoire et judiciaire en France. Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, s'adressait tout à l'heure au garde des Sceaux au sujet de la non-application des OQTF.
Le défaut d'exécution de ces décisions rend votre ministère responsable de ces drames. Et je regrette d'avoir à vous l'imputer, mais les chiffres de votre administration sont implacables. 80% des OQTF ne sont toujours pas exécutés en France.
Alors l'exécutif se défend et accuse les droites de récupération. Réponse dans la foulée du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député.
Et cette attaque s'adressait également à Marine Le Pen, appelée à la décence par Elisabeth Borne. La présidente du groupe RN à l'Assemblée reprochait au gouvernement son absence de réponse précise sur la question de l'exécution de l'OQTF. Ce gouvernement ne se remet jamais en question, a conclu Marine Le Pen.
Et ajoutons Alexandre Chauveau que plusieurs élus du RN ainsi qu'Éric Zemmour ont prévu de participer à leur propre rassemblement pour les victimes jeudi soir. On était à l'Assemblée il y a un instant. Côté budget, Elisabeth Borne accuse les oppositions de blocage. L'article 49.3 devrait être dégainé demain.
Le gouvernement qui affronte une nouvelle journée de grève et de manifestation.
Oui, pour défendre les salaires et protester contre les réquisitions. Parole de manifestants.
Tous les prix augmentent, sauf les salaires, et ça, c'est absolument pas normal. Nous revendiquons l'indexation des salaires sur les prix.
Je suis enseignante, j'ai une quinzaine d'années de carrière. On entend notre ministre dire tout le monde va commencer à 2000 euros, sauf que nous, on est à 2000 euros, donc au bout de 15 ans, que va-t-il se passer? C'est une revendication salariale, et puis aujourd'hui, c'est interprofessionnel, et ça fait du bien.
Je suis solidaire aussi avec les revendications des raffineries, vu qu'ils demandent 10% d'augmentation de salaire, et que ça fait maintenant, dans la fonction publique, plus de 10 ans qu'on nous gèle nos salaires, et qu'on nous a promis récemment qu'on aurait 10%. Et qu'en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas le cas, quoi.
Surtout, ce qui révolte tout le monde, c'est de voir les profits gigantesques qui sont faits dans la société. On se fait racketter par Total, Engie pour nos voitures, nos factures. Donc, ils font des bénéfices records et puis que nous, on nous impose des sacrifices encore et encore.
Un propos recueilli par Chloé Lagadou dans la manifestation parisienne où d'ailleurs des incidents ont opposé des casseurs aux forces de l'ordre. Les vitres de plusieurs commerces ont été brisées.
Côté grève, ce soir, la SNCF prévoit un retour progressif à la normale dès demain.
Oui, le mouvement n'a pas été très suivi. Que peut-on dire du bilan de cette journée, Barthélémy Philippe ?
On est loin du carton plein pour cette journée de grève interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT, des perturbations limitées dans les transports et des manifestations assez modestes. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 107 000 manifestants dans toute la France et 13 000 à Paris. C'est moins que lors de la précédente journée de grève du 29 septembre. Dans l'éducation nationale, le taux de grévistes atteint à peine plus de 5% selon le ministère qui a comptabilisé une trentaine de lycées bloqués. Pour demain, la grève n'est pas reconduite à la RATP. De son côté, comme vous l'avez dit, la SNCF annonce un retour progressif à la normale du trafic, avec tout de même, attention, quelques perturbations possibles sur les Transiliens en région parisienne et le réseau Intercité.
Et dans l'industrie pétrolière où le conflit a démarré, la CGT est en ce moment même en réunion pour décider de la suite. En tout cas, Elisabeth Borne parle d'amélioration sensible dans les stations-service, 25% en difficulté dans toute la France.
On en parle moins, mais depuis plusieurs semaines, la grève se poursuit également dans les centrales nucléaires. 11 sites sont touchés.
Et avec l'arrivée de l'hiver, si jamais le mouvement devait durer, attention aux lourdes conséquences. Alerte lancée par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Baptiste Morin.
Oui, une une partie du parc nucléaire est à l'arrêt, 25 réacteurs sur 56. La production d'électricité par nos centrales est donc déjà faible. Et le mouvement de grève qui touche le secteur depuis plusieurs semaines pourrait lui aussi avoir un impact, car sur les 25 réacteurs à l'arrêt, 15 le sont pour des contrôles ou des réparations de soudures affectées par la corrosion. Et si un calendrier prévoit leur relance progressive, EDF a déjà dû repousser le redémarrage de 5 d'entre eux, précisément parce que la mobilisation dans 10 centrales a conduit à des prolongations d'arrêt de 2 à 3 semaines pour continuer à intervenir. Si la disponibilité du parc est aujourd'hui conforme à ses prévisions, RTE alerte sur un décalage à partir de la fin de ce mois d'octobre. Pour l'heure, pas de scénario catastrophe, mais il ne faudrait pas que des redémarrages de réacteurs soient à nouveau repoussés. Comprenez donc qu'il ne faudrait pas que les grèves durent trop longtemps.
Baptiste Morin.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe. Et si on en profitait pour se faire vacciner contre le Covid en même temps? A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zellani. On se pique contre la grippe.
Oui, lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination jusqu'au 15 novembre. Les plus fragiles ont la priorité, les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les malades chroniques. Et il est tout à fait possible et même conseillé de se faire vacciner en même temps contre le Covid. Brigitte Audran est présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Ces deux vaccins sont parfaitement bien tolérés. Ensemble, il n'y a pas plus d'effets secondaires parce qu'on les prend ensemble et ils fonctionnent aussi bien si on les prend ensemble. Donc il faut faire en ce moment la vaccination contre la Covid. C'est vraiment maintenant qu'il faut la faire. L'épidémie est là. Et donc, il n'y a pas de raison d'attendre. Les vaccins sont là. Il faut les utiliser maintenant. Et il faut faire en même temps la vaccination contre la grippe, car la grippe peut survenir à n'importe quel moment pendant l'hiver. Et il n'y a aucune raison d'attendre que l'épidémie soit au pic pour se faire vacciner.
Propos recueillis par Yasmina Katou.
19h bientôt passé de 13 minutes sur Europe 1, une heure de moins à Londres, au Royaume-Uni, où désormais la première ministre Liz Truss est déjà sur un siège éjectable.
Oui, hier elle a dû abandonner quasiment tout son programme économique et s'est même excusée pour ses erreurs. Entre les manœuvres des élus conservateurs pour la remplacer et les sondages de plus en plus défavorables, son mandat ne tient plus qu'à un fil. À Londres, Anaïs Cordoba.
Sur le banc de la Chambre des communes, Liz Truss assiste silencieuse à la destruction de son plan de croissance par son nouveau ministre des Finances. La scène qui a eu lieu hier illustre la position de Liz Truss, une première ministre en fonction mais plus au pouvoir, comme le titrait la presse ce matin. Quelques heures après cette séquence, elle prend la parole pour demander pardon aux Britanniques.
Je reconnais que nous avons fait des erreurs. Je m'excuse pour ces erreurs, mais je les ai maintenant réparées. J'ai nommé un nouveau ministre des Finances, nous avons restauré la stabilité économique et l'équilibre fiscal. Et maintenant, je veux continuer à agir pour le public.
Des excuses publiques comme une opération de la dernière chance, mais la partie semble perdue d'avance. À seulement 10% d'opinion favorable, Liz Truss est devenue la première ministre la plus impopulaire du Royaume-Uni. Et selon un sondage désastreux paru aujourd'hui, 55% des militants du Parti conservateur, ceux qui l'ont élu, souhaite désormais son départ. En coulisses, la course à sa succession a déjà commencé. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
De nouvelles frappes russes en Ukraine. Elles ont notamment visé des installations électriques à Kiev. Actuellement, plus d'un millier de localités n'ont plus d'électricité. Selon le président Zelensky, 30% des centrales électriques ukrainiennes sont détruites.
C'est à jamais un ballon d'or français et on en est fiers. Karim Benzema a décroché le Graal hier soir.
Oui, jolie revanche pour celui qui avait été mis à l'écart des Bleus pour le Mondial 2014. Écoutez l'hommage que lui rend le sélectionneur Didier Deschamps.
Je ne suis pas surpris, on s'y attendait quand même. Mais c'est quelque chose de fabuleux pour lui. C'est un grand moment pour ses proches. Et évidemment que ça soit un Français, c'est une victoire en plus pour le football français à travers la formation, le monde professionnel. Donc ça met en lumière l'ensemble du football français à travers cette récompense pour Karim.
Didier Deschamps au micro de Martin Lange. On en vient au marché financier avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Petite hausse à Paris.
Oui, quatrième séance dans le vert, plus 0,44% pour le CAC 40 à 6067 points. Tendance soutenue par des résultats d'entreprises solides. À Paris, c'est la performance trimestrielle de Publicis qui a été saluée aujourd'hui. Le numéro 3 mondial de la communication a de nouveau relevé ses objectifs financiers pour 2022. L'action bondit de 2,3%. Et c'est de l'optimisme sur tous les marchés en Europe. Francfort gagne 0,9%, plus 0,2% pour Londres et pour Amsterdam. À Paris, le CAC 40 s'adjuge donc 0,4% ce soir.
Merci Claire Lemaitre.
Marlène Duret, je rêve, il fait plus de 30 degrés par endroit demain, ambiance estivale dans le sud-ouest notamment.
Ben même cet après-midi, Raphaël. Hein. Ben oui, ben, déjà on a de l'air chaud qui remonte depuis l'Espagne et l'Afrique du Nord. Et cet après-midi, les 33-34 degrés ont été atteints dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et une partie des Hautes-Pyrénées. Des records ont été battus, 33,8 dans l'ancienne capitale du Béarn. Orthez, petite ville située entre Pau et Bayonne, record mensuel à égalité avec celui du 4 octobre 2004. Alors demain, on prévoit encore 26 à 30 degrés en Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, 30 à 33 au sud-ouest de la Garonne. La chaleur qui aura tendance à gagner vers le Massif central et le long de l'Atlantique, hein, 28 à Clermont-Ferrand, 27 à Nantes, 25 au Mans et ailleurs beaucoup de douceur, hein, 20 à 25 en général.
Et côté ciel, c'est calme.
Oui, alors des entrées maritimes, autrement dit nuages et quelques pluies du Roussillon au Var pour le matin, surtout le pourtour du golfe du Lion, elles auront tendance à se réduire au fil des heures. Ailleurs, c'est plutôt lumineux, une fois les brouillards et grisailles dissipés. Soleil généreux entre la Franche-Comté, la vallée du Rhône, les Alpes et la Corse. Et puis le ciel va avoir quand même tendance à se voiler par l'ouest. On a du vent de sud qui va se renforcer sur les Pyrénées avec quelques petites pluies sur le relief. Et puis surtout ces averses localement orageuses qui vont arriver en soirée tout le long de la façade atlantique.
C'est bien noté, merci Marlène Duret qui nous donnera quelques couleurs, celles du ciel. En pleine nuit, il sera 23h.
Et oui.
À tout à l'heure sur Europe 1. Restez avec nous, nous évoquons tout à l'heure, dans quelques minutes, le drame épouvantable, le meurtre de Lola. L'indignation, l'effroi, 5 jours après le drame, on l'a entendu pendant le journal. Nous en parlons avec Mathieu Vallet, du syndicat indépendant des commissaires de police. À tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous l'avons entendu pendant le journal, l'indignation, l'effroi, 4 jours après la mort de la jeune Lola, l'incompréhension aussi, puisque la principale suspecte, 24 ans, d'origine algérienne, est visée par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Nous en parlons avec Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors plus les jours passent, plus des éléments nous parviennent. La femme mise en examen pour le meurtre et le viol aggravé de Lola, 12 ans, était en situation irrégulière depuis 2019, visée par une OQTF. Depuis août dernier, elle avait 30 jours pour partir. C'est une OQTF que l'on peut qualifier de « soft », entre guillemets, hein, puisqu'elle n'est pas placée en centre de rétention administrative. On lui laisse 30 jours pour partir d'elle-même. Cela vous surprend-il qu'elle soit restée en France ?
Bah, si vous voulez, sur les obligations de quitter le territoire français, c'est assez simple. Quand une personne ne fait pas d'infraction connexe, c'est-à-dire si on ne la prend pas sur un délit, sur un crime, et qu'elle est simplement constatée en situation irrégulière, elle fait l'objet d'un document administratif émis par la préfecture de département, en l'occurrence là c'était la préfecture de police de Paris, dans lequel on lui dit en fait vous avez 30 jours pour quitter de votre plein gré le territoire national par les moyens qu'elle juge les plus à même pour rentrer dans son pays, et c'est la raison pour laquelle effectivement aujourd'hui on a une difficulté dans le suivi, la traçabilité et la bonne exécution des obligations de quitter le territoire français.
Parce que quand on émet cette OQTF, donc il laisse en fait 30 jours sur la base du quasi-volontariat, c'est ce que vous nous expliquez.
En fait, si vous voulez, l'obligation de quitter le territoire français, il ne faut pas le confondre avec le centre de rétention administrative. Dans les centres de rétention administrative...
On y reste 48 heures et on repart normalement, c'est bien ça.
Alors en centre de rétention administrative, c'est maximum 90 jours. L'État a 90 jours d'abord pour que la personne en rétention puisse exécuter les voies de recours souvent qu'elle utilise, soit sur sa rétention, soit sur l'arrêté qui l'oblige à quitter le territoire. Et ensuite, on a aussi ce temps pour convaincre le pays, parce que c'est souvent le cas aujourd'hui, de récupérer son ressortissant, bien déterminé dans l'origine du pays duquel il provient, et ensuite que le pays d'origine avéré puisse et veuille récupérer le ressortissant, ce qui prend beaucoup de temps. Et effectivement, sans infraction connexe, parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de délinquants étrangers qui sortent de prison dans ces centres de rétention administrative, de manière à ce qu'ils soient expulsés à l'issue de la condamnation et de la peine faite en prison, eh ben effectivement, on n'a plus de place pour le reste en fait des obligations de quitter le territoire français lorsqu'ils n'ont pas été respectés et qu'après effectivement on a la coercition possible pour les mettre dans ce genre de centre.
Alors dans le cas du meurtre...
c'est compliqué hein. C'est bien le problème de la législation en droit administratif. C'est très très compliqué parce que c'est vrai qu'en droit pénal, vous faites un vol dans un supermarché, on vous arrête, il y a une garde à vue, le magistrat décide s'il vous poursuit au nom de la société devant un tribunal, il y a ou pas une condamnation, vous l'exécutez d'ailleurs ou pas, et puis après c'est réglé. Là, en droit administratif, il y a plusieurs situations. Il y a celle d'une personne en situation régulière à qui on reproche rien d'autre, qui fait l'objet de ce fameux document administratif où on lui dit « vous avez 30 jours pour rentrer par vos propres moyens ». C'est très simple, donc elle ressort libre et durant un mois, elle peut vagabonder pardon, sur le territoire national et partir ou pas de son plein gré. Et ensuite, lorsqu'on la réattrape, cette
personne...
Mais
dans la plupart des cas, il reste, en fait.
Ah oui, la plupart des cas, il reste. Bah, vous savez, c'est toujours le plus simple à comprendre, c'est que quand vous donnez aux gens la latitude de choisir ou pas de rentrer de leur propre initiative ou pas dans leur pays d'origine, effectivement, lorsqu'il n'y a pas de coercition, lorsqu'il n'y a pas de contrainte, lorsqu'on ne l'oblige pas par la force publique à rentrer chez elle, comme on le fait pour les personnes qui font notamment loger par la justice d'une expulsion du territoire national, et bien effectivement, la plupart du temps, ils restent sur le territoire national et on le constate comment ? Parce que lorsqu'on fait des interpellations, là pour le coup, de voyous étrangers en situation régulière, au moment où on étudie leur situation administrative durant la garde à vue par le biais de la préfecture, on se rend compte qu'en fait, ils ont déjà fait l'objet des fois, une fois, même plusieurs fois, d'obligation de quitter le territoire français et qu'effectivement, la mesure n'a pas été exécutée puisqu'on les retrouve sur des délits de droit commun, voire pire, des crimes, comme c'est le cas par exemple dans l'affaire ignoble que vous avez évoquée en début de l'interview.
Alors, l'affaire Lola, dans ce cas très précis, est-ce que c'était réellement évitable ? Cette jeune femme était inconnue des services de police, si ce n'est en tant que victime de violences conjugales en 2018. Les agents de l'État qui donc, l'ont vue à l'aéroport, elle avait tenté de prendre un vol international en août dernier et qui ont émis donc, cette OQTF, n'ont pas soupçonné un potentiel criminel.
Non, mais si vous voulez, on a un fichier des personnes recherchées dans lequel on inscrit dans ce fichier toutes les personnes qui font l'objet des recherches par la justice, par les services de police et d'une certaine manière aussi sur lequel on doit prendre des renseignements sans interpellation et sans éveiller l'attention de la personne. Donc, elle n'était pas cette personne présumée impliqué dans le crime, puisque je rappelle qu'il faut être prudent sur les propos qu'on tient
dans le cadre de cette affaire. La principale suspecte.
Exactement. Elle n'était pas fichée dans notre fichier des personnes recherchées, donc elle ne faisait pas l'objet d'une recherche par une autorité judiciaire ou policière. Ensuite, les policiers de la police aux frontières ont fait leur travail. Elle est arrivée devant une aubette. Vous savez, quand vous prenez l'avion, vous avez des guérites dans lesquelles les policiers contrôlent vos documents administratifs et votre titre de transport. En fait, le pays où elle voulait se rendre, soit était soumis à visa, soit était soumis à minima carte d'identité. Vous savez que pour partir de Lille, par exemple, pour aller à Marseille, vous devez avoir au moins votre pièce d'identité. Si vous ne remplissez pas ces conditions de documents, de situation administrative ou de pièces exigées pour aller dans la destination où vous voulez aller, à ce moment-là, on vous refuse l'accès. Parce que si la personne, on la laisse passer et qu'elle arrive dans le pays vers lequel elle voulait aller, c'est la responsabilité de la France ensuite, qui est mis en jeu avec celle du transporteur, celle, là, dans le cas présent, de la compagnie aérienne. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que là où, en fait, j'entends le débat porté, c'est que ces obligations de quitter le territoire français, comme elles n'ont pas de valeur contraignante, dans le sens où on accompagne par la force publique et par la contrainte administrative ces gens dans leur pays d'origine. Et bien, effectivement, elles sont, pour la plupart des cas, pas exécutées. Les derniers chiffres, c'était 11%. D'ailleurs, ça a été mis en exergue cet été, au mois de juillet, avec les policiers qui avaient été agressés dans le 8e arrondissement lyonnais à la Guillotière, où on voyait bien que les agresseurs étaient encore une fois de plus d'abord connus des services de police, qui, pour le cas, dans le cas de l'affaire Lola, n'est pas le cas, mais en tout cas, avaient aussi fait l'objet de procédures d'obligation de quitter le territoire français, parce qu'en situation régulière, sur notre territoire national.
Mathieu Vallet, du syndicat indépendant des commissaires de police, qu'attendez-vous du pouvoir public pour que ce type de cas ne se reproduisent plus.
Mais si vous savez, en fait, la procédure administrative d'expulsion des personnes en situation régulière, c'est la petite sœur de la procédure pénale. Aujourd'hui, en France, la procédure pénale pour faire des enquêtes, c'est devenu un carcan à une usine à gaz. La procédure pour expulser les étrangers en situation régulière, c'est devenu aussi un carcan. Et la procédure pour expulser, je sais que vous en parlez souvent, les squatteurs ou les personnes qui rentrent illégalement dans des appartements qui ne leur appartiennent pas, sont aussi des carcans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, notre droit, au-delà de respecter effectivement la présomption d'innocence et les droits des individus tels que notre état de droit le prévoit, ne permet pas aux honnêtes citoyens, aux victimes, d'être reconnus et d'être défendus. C'est ça qu'on exige du pouvoir politique. Et pour aller sur ces OQTF, je pense qu'il faut porter une vraie réflexion sur l'interpellation, en tout cas la rétention des personnes en situation régulière qui doivent peut-être faire l'objet systématiquement d'une expulsion immédiate pour qu'on ait une vraie effectivité de suivi de ces expulsions. Maintenant, ça concerne beaucoup de monde, ça nécessite des moyens. Vous savez que dans les centres de rétention administrative...
On a à peu près 120 000 OQTF prononcés chaque année.
Il y en a 120 000 OQTF par an et je vais vous donner des chiffres très précis sur les nombres de centres de rétention administrative, c'est-à-dire en France et en Outre-mer, il y en a 25. Ça correspond grosso modo à un peu moins de 2 000 places. Vous voyez bien qu'entre le nombre de places disponibles et le nombre d'OQTF que chaque année la France prononce à l'endroit des étrangers en situation régulière, il y a un delta qui est complètement impossible à tenir.
Ouais, ces centres sont toujours
et puis,
en fait
saturés. Je vais même plus loin. Le policier, pour terminer, qui doit quand même alerter l'opinion publique sur ça, c'est qu'on met des policiers, des gardiens de la paix dans ces centres de rétention administrative. À Lyon, le fameux centre de rétention qui a ouvert, 152 policiers. C'est 152 policiers qu'on met dans ces centres de rétention administrative qu'on a en moins sur la voie publique. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, même si le Conseil constitutionnel est réticent, à ce que pour garder des portes, garder des murs et faire transbahuter des personnes en station régulière du tribunal administratif au centre de rétention, du centre de rétention au centre de gestion, est-ce qu'on ne peut pas mettre des sociétés de sécurité privées pour faire ni plus ni moins de la garde de personnes sans qu'en plus ça soit des personnes condamnées pénalement ?
On poursuit notre conversation dans le sillage de cette épouvantable affaire, le meurtre de Lola, 12 ans, vendredi dernier à Paris. Nous sommes avec Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous sommes 4 jours après le drame épouvantable, la mort de Lola, 12 ans, la principale suspecte, 24 ans, d'origine algérienne, visée par une OQTF, est en détention provisoire à la prison de Fresnes. Nous en parlons avec Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. Restons sur le profil de cette suspecte, hein, qui est suspecte pour le moment. C'est une ressortissante algérienne qui est entrée en France en 2016 via un visa étudiant. C'est un profil que vous connaissez, Mathieu Vallet ?
Non, d'abord, les faits sont abjects et j'ai une pensée pour la famille.
On va en parler ensuite. Sur le profil,
oui, pardon,
de la principale
suspecte. Le policier que je suis évoque d'abord ce qui l'a marqué fortement. Et je pense d'abord aux
victimes. Je vais vous poser une question dessus, bien sûr.
Donc, c'est un profil, assez atypique, parce qu'effectivement, habituellement, on a 5% des multirécidivistes qui font 50% de la délinquance en France. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on a l'habitude de faire face à des gens qu'on connaît dans les services de police, donc qui ont déjà fait l'objet d'interpellations, voire même de condamnations par la justice. Là, c'est une personne qui n'avait jamais fait l'objet ni d'une interpellation, ni d'une condamnation pour des faits pénals. Et par contre, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé ce matin, elle avait effectivement déposé plainte pour des violences conjugales avec son ex-conjoint. C'est les seules informations dont disposaient les enquêteurs lorsqu'ils ont mené les investigations depuis le vendredi soir, date à laquelle était disparue, puis après malheureusement découverte, la petite Lola de 12 ans. Donc, on a une dame qui est venue d'Algérie. Vous savez que les pays que sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont soumis à visa, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une délivrance de visa par les autorités françaises ou même européennes. Vous savez que si par exemple l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne délivrent un visa à ses ressortissants, ils ont le droit de venir en France, c'est les fameuses espaces Schengen. Et ensuite, effectivement, quand cette personne était plus en situation régulière, on revient dans ce qu'on évoquait avant votre publicité sur les exécutions des obligations de quitter le territoire français. Mais c'est un profil qui est d'abord, c'est des faits très atypiques. Même, je parle par rapport à la barbarie et la sauvagerie de la commission de l'agression et de ce meurtre abject. Et ensuite, sur un profil, effectivement, qu'on ne connaissait pas. Malheureusement, si j'ose dire, la plupart des tueurs, des violeurs, des assassins ont déjà fait dans le passé l'objet de procédures policières et judiciaires.
Alors, vous l'avez dit, il y a une dimension humaine dans cette affaire. Beaucoup de parents, mais pas seulement, sont horrifiés par ce crime atroce. Je vous demande d'ailleurs de taire les détails parfaitement sordides des sévices subis par la jeune Lola. Ses parents sont en deuil. Seulement, Mathieu Vallet, comment percevez-vous ce meurtre ? Je parle évidemment aux policiers. Est-ce que c'est un fait divers déjà vu qui vous inquiète sur l'état de la société en ce moment ?
Vous savez, dans notre pays, on n'a peut-être pas plus de violence, mais on a une violence de plus en plus dure. Et on voit bien qu'à Nantes, par exemple, samedi, il y a une femme qui a été, lorsqu'elle allait au travail, lardée de 10 coups de couteau et qui est morte sur la voie publique par un individu qu'elle ne connaissait pas. On voit bien que dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le Var, à la Seyne-sur-Mer, on a un enfant de 7 ans qui a été massacré sous le coup de son beau-père et qui en est décédé. On voit en fait qu'on monte en degré d'intensité dans la violence. Et sur cette affaire, je me permets de votre antenne pour dire que tous les policiers, lorsqu'ils ont été engagés sur la recherche de la petite Lola, puisque son père et sa mère ont avisé rapidement les services de police lorsqu'ils n'ont pas vu rentrer de l'école, ont mis tout en œuvre pour la retrouver. Et on aurait aimé la retrouver évidemment vivante. On a même mis en place un chien pisteur, c'est-à-dire un chien qui est formé et qui est aguerri à la recherche de la trace humaine. On a fouillé toutes les parties communes, les caves, les sous-sols, les garages. Et finalement, il y a le déroulé que vous avez longuement évoqué depuis 4 jours. Et après, la brigade criminelle du 36 rue du Bastion, cette fameuse police judiciaire parisienne que les Parisiens et les Parisiennes, même les Français, connaissent si bien pour les enquêtes emblématiques qu'elle a eu à connaître et à mener, ont tout mis en œuvre durant 72 heures pour identifier les principaux protagonistes dans cette affaire. Si aujourd'hui, on a cette suspecte principale mise derrière les barreaux, c'est aussi parce que les enquêteurs ont tout mis en œuvre par respect et pour la mémoire de cette fille et pour aussi l'obligation qui est la nôtre de pouvoir rendre justice à la justice par rapport à la présentation des preuves et des personnes qu'on interpellera et l'enquête qui continuera. C'est ça le plus important. Moi, je pense à ces deux parents. Vous savez, quand vous avez été condamné à perpétuité par la perte d'un proche dans les conditions abjectes que vous avez décrites, il ne faut pas qu'ils subissent la double peine d'une affaire qui serait mal menée ou d'une justice qui serait mal rendue. Il faut que par respect pour la mémoire de cette fille et par ses parents qui ont un deuil qui ne sera jamais effectivement terminé quand on perd dans ces conditions une fille de 12 ans, eh ben on puisse faire le maximum pour amoindrir cette douleur et qu'une justice dans un état de droit puisse se rendre dans un tribunal et que la personne suspecte, lorsque l'instruction sera terminée, puisse rendre des comptes dans un tribunal. Et surtout, j'en terminerai là, de grâce qu'on puisse tout mettre en œuvre, quelle que soit l'abolition ou pas du discernement, quel que soit l'état psychiatrique ou pas de cette personne, qu'on mette tout en œuvre pour qu'on ne retrouve pas ce genre de profil dans les rues, dans les quartiers, dans les abords d'établissements, parce que s'indigner, c'est bien, mais que ça ne se reproduise plus, faire tout en sorte que ça ne se reproduise plus, c'est mieux.
Merci beaucoup Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Nous sommes maintenant avec François-Noël Buffet, président Les Républicains de la commission des lois du Sénat. Il a notamment mené une mission service de l'État et immigration, un rapport qui pointe les nombreuses failles du système français, illisible, incompréhensible. C'est ce qu'on peut lire notamment dans ce document. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Alors, c'est un cas d'école que celui de cette femme de 24 ans, restée dans l'illégalité pendant 3 ans, visée par une obligation de quitter le territoire français, visiblement peu dissuasive.
Écoutez, tout d'abord, j'ai évidemment, face à ce crime horrible, une pensée pour la famille. Cela a été dit par le précédent intervenant. Et je crois que nous devons la partager et fortement, naturellement. Sur la situation particulière des étrangers en France, et notamment de ceux qui sont en situation irrégulière, de surcroît, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, c'est un échec depuis de nombreuses années. La France est dans l'incapacité de renvoyer les étrangers en situation irrégulière. Il suffit de voir, et dans le rapport que nous avons commis au printemps dernier, on a mis en évidence le faible taux d'exécution, inférieur à 10%, sur à peu près 90 000 ou 100 000 OQTF rendus par an, on en exécute, vous voyez, 8 à 10% et pas plus, c'est pas possible. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, qui est la cause en réalité, c'est que les pays sources ne délivrent pas des laissez-passer consulaires, souvent parce qu'ils n'ont pas envie de voir revenir sur le territoire des personnes qu'ils n'ont pas envie de voir, parfois parce qu'ils n'ont effectivement pas les états civils, ils ne reconnaissent pas leurs ressortissants. Enfin, il y a toujours une raison, ou une raison politique d'ailleurs, il ne faut pas la cacher, une pression qui doit être accordée à d'autres fins, qui est faite, et résultat des courses, les personnes restent sur le territoire national. Ça, c'est la conséquence, elle est insupportable, elle nécessite en tous les cas un effort double, celui de mieux gérer les relations avec les pays sources, et la deuxième, c'est d'avoir des centres de rétention peut-être en nombre plus important pour pouvoir replacer ces gens par principe et non pas par exception, puisque je rappelle que la loi aujourd'hui, c'est le principe, c'est plutôt l'assignation à résidence et le centre de rétention de façon, entre guillemets, je pèse mes mots, secondaire quand on va faire autrement. Mais la cause première de tout cela, il y a quand même une cause première qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'une grande partie des gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire sont aussi parfois rentrés en situation régulière. Un visa touriste,
un visa étudiant,
c'est régulier, et puis naturellement on ne renouvelle pas, on s'en fiche et on rentre dans la clandestinité, et après il arrive ce drame aujourd'hui, il y en a d'autres, et des gens qui restent là, et on a une migration irrégulière extrêmement importante en France, qui est probablement entre 500, 600 000, peut-être même 700 000 personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on se base d'abord sur l'aide médicale d'État, c'est 370 000 personnes à peu près, et puis on sait qu'il y a une part nébuleuse qu'on ne maîtrise pas par définition, et on est dans cette épure-là. L'enjeu aujourd'hui.
François-Noël Buffet, président Les Républicains de la Commission des lois du Sénat, est avec nous. Cette affaire Lola prend une dimension évidemment politique. J'aimerais que l'on écoute cet échange cet après-midi lors des questions au gouvernement entre la chef des députés Rassemblement National, Marine Le Pen. Elle s'adresse à la chef du gouvernement, Elisabeth Borne.
Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce depuis plus de 3 ans, une fois de trop. trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux.
Un peu de décence, Madame la Présidente. Respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. La police fait son travail et elle le fait vite. Et la justice fait son travail et elle le fait vite. C'est ce qui a permis d'interpeller, d'identifier, puis d'interpeller la prévenue. Mais je vous le dis, Madame la Présidente, dans notre pays, il y a une loi fondamentale qui prévoit la séparation des pouvoirs. Respectons la loi fondamentale, respectons la douleur de la famille, respectons la mémoire de Lola.
François-Noël Buffet, président des Républicains de la Commission des lois du Sénat, est avec nous pour réagir à cet échange entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, la Première ministre.
J'allais presque dire que le moment d'émotion fait qu'il faut rester un peu serein, malgré tout, malgré le drame. Mais il est vrai que la France, notre pays, n'est pas capable aujourd'hui de gérer avec efficacité les gens en situation irrégulière. Nous ne sommes mal organisés. Et il faut un effort considérable là-dessus de contrôle, notamment en particulier de ceux qui sont rentrés régulièrement sur le territoire, qui arrivent à échéance de leur droit de rester sur le territoire, et que l'on aille, j'allais dire, contrôler systématiquement à la date d'échéance le fait qu'ils soient repartis ou pas. Il y a des moyens à mettre en place, à renforcer, pour s'assurer au moins du fait qu'ils sont repartis, et s'ils ne le sont pas, de pouvoir faire le nécessaire immédiatement et ne pas attendre, comme ça a été le cas ici, 3 années, une personne en situation irrégulière et avec le drame qui arrive au bout. Donc, on est inefficace sur le plan de la gestion de l'immigration irrégulière. Il est temps de tout remettre sur la table et il est temps de se donner les moyens d'une politique ferme et surtout avec des moyens très organisés.
Alors, les propositions de cet été du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vont dans le bon sens, si je vous suis bien. Il proposait de rétablir la double peine, notamment en mettant fin à des réserves. Donc, si vous avez un mariage de longue durée avec un Français, si vous êtes arrivé mineur en France ou avoir des enfants nés en France, ça peut vous permettre de vous empêcher une obligation de quitter le territoire français. Ça va dans le bon sens, si je vous suis, Jean-François Noël Buffet.
Attendez, je pense qu'il faut prendre des situations au cas par cas, mais il y a un principe qui doit être intangible. On doit contrôler les étrangers qui sont sur le territoire national, qui sont en situation régulière pour savoir à quel moment leur durée de maintien sur le territoire est arrive à terme pour pouvoir s'assurer qu'ils soient bien repartis ou qu'ils aient demandé un renouvellement. Ça, c'est absolument nécessaire. Et pour ceux qui sont en situation irrégulière, quelles que soient les raisons de celle-ci, c'est retour au pays d'origine. Ça, c'est absolument... Si on n'a pas cette fermeté-là, on n'y arrivera pas. Et on n'y arrivera jamais parce qu'on considérera qu'en France, on peut faire ce qu'on veut, que l'on soit sérieux et régulier quand on est étranger et qu'on s'occupe de ses affaires, eh bien, on n'a pas plus de droits finalement que quand on ne l'est pas. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Donc il faut renverser les choses et remettre les choses en ordre. Ça, c'est impératif. Cela dit, encore faut-il qu'on ait un texte qui nous soit présenté par le gouvernement rapidement. Si tel n'était pas le cas, nous prendrions nous-mêmes une initiative parlementaire, car on ne peut pas continuer d'être dans un scénario qui est une sorte de scénario au fil de l'eau, qui est absolument dramatique et qui nous emmène dans des impasses parfaitement connues aujourd'hui et établies, naturellement. Il n'est pas question de dire que les gens qui sont en situation sur le territoire, qui vivent leur vie normalement et qui sont en situation régulière, il ne faut pas les embêter. Ils vivent leur vie et c'est très bien. Ils respectent les valeurs de la République, ils respectent tout notre organisation, tout va bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ceux, en revanche, qui sont en situation irrégulière qu'il faut absolument renvoyer pour qu'il y ait un vrai sens à la décision administrative, et puis parce que les gens plus, à juste raison d'ailleurs, ce type de situation.
Merci François-Noël Buffet d'avoir accepté, répondu favorablement à l'invitation d'Europe Soir. Je rappelle que vous êtes président Les Républicains de la Commission des lois du Sénat et vous avez mené cette mission Service de l'État et Immigration. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Dans quelques instants, nous évoquons la grève. Est-ce un bide, un succès? Seulement 107 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Nous serons avec Fabien Dumas, secrétaire fédéral du syndicat de cheminots Sudrail. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, pas tant de problèmes que cela dans les transports aujourd'hui comme redouté. Les Français ont, semble-t-il, pris leurs précautions en région et en Île-de-France. Le réseau SNCF annonce une reprise quasi normale. Dès demain, nous faisons le point sur cette journée de mobilisation interprofessionnelle avec Fabien Dumas, secrétaire fédéral Sudrail. Sudrail qui appelait à la mobilisation des cheminots aujourd'hui. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, quel bilan tirez-vous de cette journée de mobilisation? Êtes-vous satisfait, déçu?
Oui, on est plutôt satisfait. La mobilisation chez les agents d'exécution et de maîtrise sur les agents directement en lien avec la production était quand même significative. C'est un mouvement réussi. Moi, je n'entrerai pas dans la bataille des chiffres là sur la présence. Moi, j'étais à la manifestation à Paris et il y avait beaucoup de monde.
Il y avait 13 000 personnes à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, 70 000 selon la CGT.
Oui, pour un mouvement qui s'est décidé, parce qu'au début, il n'y avait que les raffineurs, hein, sur un mouvement qui s'est décidé en 5 jours. La capacité à mobiliser en 5 jours et la manifestation qui s'est décidée aussi, elle aussi au dernier moment, j'estime que ces chiffres sont significatifs et contrairement à ce que dit la direction, il y a un sujet salaire à la SNCF, il y a un sujet salaire dans la raffinerie, il y a un sujet salaire pour l'ensemble des salariés en France, il me semble.
Alors, on va parler évidemment de la question des salaires à la SNCF. Je fais un dernier point sur les chiffres pour que nos auditeurs comprennent. 107 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus faible que la dernière mobilisation interprofessionnelle. 18 500 personnes avaient défilé dans toute la France, 13 500 à Paris. Là, toujours selon le ministère de l'Intérieur. Nous sommes avec Fabien Dumas, secrétaire fédéral Sudrail, et nous évoquons ce pourquoi les syndicats appelaient à manifester aujourd'hui pour les hausses de salaire, pour la défense du pouvoir d'achat. Un petit chiffre à rappeler, la SNCF a engrangé au premier semestre 2022 928 millions d'euros de bénéfices. Des négociations de salaire en deux temps ont déjà été menées par la direction et avec les syndicats. On en est à peu près à 5,8% par salarié. Ça prend en compte l'inflation, même un peu plus, on en est à 5,6%. Fabien Dumas, secrétaire fédéral Sudrail, beaucoup de Français ne comprennent pas bien vos revendications.
Je vais leur expliquer. En effet, la SNCF, vous venez de le rappeler, là, sur le premier semestre, elle engrange près d'un milliard. Ça sera sans doute 2 ou 3 milliards en fin d'année. Donc les bénéfices sont là. Il y a eu des mesures salariales accordées le 6 juillet par la direction SNCF. Alors moi je conteste ces chiffres de 5,8, hein, c'est 2,7 en moyenne, plus 400 euros en somme uniforme, donc plus 400 euros pour tout le monde, pour l'année. Hein. Donc en admettant qu'on prenne même les chiffres donnés par la direction, en juillet on avait une inflation qui était à 6,8. 5,8, nous on sortait de 8 années de gel des salaires. Et là, on a une mesurette le 6 juillet qui ne rattrape même pas l'inflation en cours. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas gagné, on a perdu 1%. Donc, et on sortait de 8 années de gel des salaires. Donc, le sentiment de déclassement des cheminotes et des cheminots à la SNCF, il est considérable. D'ailleurs, la direction SNCF le sait. Hein, on vient de battre le record. On a eu les chiffres là de janvier à septembre 2022. C'est plus 43% de démission par rapport à l'ensemble de l'année 2021. Les cheminots, non seulement ils démissionnent, mais en plus on peine à recruter parce que les gens, quand ils voient notre niveau de salaire sur des métiers très techniques, hein, comme les climaticiens, les électriciens, les soudeurs, quand ils voient ce que paye la SNCF, quand ils voient ce que paye le privé, ils viennent pas. Donc, de toute façon, la direction de la SNCF, qu'elle le veuille ou non, elle sera obligée de se remettre autour de la table avec nous pour des augmentations de salaire, parce que la SNCF, là, elle n'arrive plus à recruter, elle est plus attractive. Donc, nous, on dit qu'il y a un problème de salaire, et la direction de la SNCF est en train de s'en rendre compte.
Alors, est-ce que vous allez utiliser comme les raffineurs, comme les énergéticiens aussi, hein, il y a des grèves, dans plusieurs centrales nucléaires de France. Est-ce que, comme les énergéticiens, comme les cheminots, vous allez user du droit de grève pour vous faire entendre, appeler à de nouvelles mobilisations dès cette semaine?
Alors, pour l'instant, les assemblées générales se sont réunies ce matin. Il y a des endroits où ça reconduit, majoritairement ça reconduit. Il y a des endroits aussi où ça n'a pas reconduit. Pour nous, la grève, elle appartient aux grévistes. On se voit comme un outil syndical qu'on met à disposition des cheminots. Donc, on va voir les assemblées, là où ça reconduit, on va voir les assemblées générales de demain. Mais de toute façon, oui, Sudrail, on va pas laisser faire. Il y a un sujet salaire. La direction SNCF nous renvoie à des négociations qui auront lieu en décembre. Mais sauf que il y a une urgence. Il y a une urgence là. Je vous l'ai dit, ça démissionne à tout va. On n'arrive pas à recruter. On n'est absolument pas attractif. Il faut, enfin, les négociations de décembre, on nous renvoie souvent à nos responsabilités. Moi, je pense qu'il faut parler de la direction SNCF. Là, les bénéfices sont là. Il suffirait d'avancer les négociations de décembre à maintenant. On se voit demain, là, ou on se voit après-demain. Jean-Pierre Farandou convoque une réunion. On négocie des augmentations de salaire maintenant. Et on n'attend pas décembre. Il y a une urgence. Et de toute façon, oui, nous, on ne laissera pas faire.
Alors, la SNCF, pour l'instant, maintient ses négociations pour décembre. Est-ce que vous pensez aux nombreux Français qui ont besoin de se déplacer cette semaine? Je pense notamment aux vacances de la Toussaint. On nous fait part d'annulations de séjours de plus en plus importantes. Alors, évidemment, il y a la crise des carburants, ces pénuries provoquées par certains raffineurs, chez Total Energy notamment. Et puis, beaucoup de regards aussi sont tournés vers vous, les cheminots. Vous allez laisser un peu de répit, si vous me permettez cette question un peu triviale. Laisser un peu de répit aux Français qui veulent partir en vacances, Fabien Dumas.
Je prends votre question triviale que tout le monde nous pose. On nous renvoie souvent... j'entends. On nous renvoie souvent à nos responsabilités, à nous. Mais on oublie toujours la responsabilité des directions d'entreprise. Quand Total... quand le PDG de Total s'augmente, même si c'est, enfin voilà, quand il a un salaire à 6 millions d'euros, quand il est obligé de faire un versement exceptionnel de dividendes tellement il fait des bénéfices, quand il engrange 18 milliards de bénéfices et qu'il donne de l'argent à ses actionnaires et qu'il oublie juste les salariés qui produisent, on peut peut-être envoyer la responsabilité de la direction de Total. On peut aussi donner une partie de ses bénéfices. On n'est pas obligé de donner qu'aux actionnaires, on peut aussi donner aux salariés. Donc, c'est la même chose à la SNCF. 8 années de gel des salaires, on nous disait il n'y a pas d'argent. Là, en fin d'année, il va y avoir 3 milliards, et on nous dit, ben non, mais on n'augmente pas les salaires. La direction SNCF, elle joue un rôle là-dedans, elle pourrait entamer des négociations dès maintenant, elle refuse de le faire de manière inexplicable. Donc nous, on prend la responsabilité, on sait qu'une grève, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit impactante. Une grève qui ne se voit pas, c'est une... autant pas faire grève. Donc on est bien conscient du désagrément, mais au lieu de nous... Enfin, à chaque fois, le patronat ne donne rien sans créer le rapport de force. Moi, je rêverais de pouvoir m'asseoir avec la direction... Et de manière tout à fait apaisée, dire voilà, il y a de l'argent, il y a 9 milliards en trésorerie, vous allez faire 3 milliards de bénéfices, il y a de l'argent, on en veut une partie pour les salariés, le patron dirait oui et tout irait bien, il n'y aurait pas de grève. Sauf que nous, on a affaire à des patrons, tant qu'on ne crée pas le rapport de force, ils refusent de négocier, et même quand on crée le rapport de force, ils nous disent la réunion elle est prévue en décembre, elle va rester en décembre.
Excusez-moi Fabien Dumas, on est pris par le temps, merci d'avoir... témoigner ce soir au micro d'Europe 1, Fabien Dumas. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de Sudrail. Vous parliez d'appel à la grève reconduit localement. C'est à Paris, Bordeaux, Montauban et Angers chez les cheminots. Merci à vous. Dans quelques instants, votre grande soirée sport sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.